This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier.
Ladies and gentlemen, the star. A star is here. Sandman Williams, my brother.
Clay Williams, finest tap dancer in Harlem.
All right.
Dalvin, why don't you and your brother Clayton dance together?
Come on. Come on, Sandman. Come on, Sandman. Come on. We'll finish out the crazy rhythm together. Okay. Come on, guys. How?
Hey, Lionel.
Crazy rhythm, here's the doorway. I'll go my way, you go your way. Crazy rhythm from now on, with through. Here's where we have a showdown. I'm too high hat, you're too low down. Crazy rhythm, here's goodbye to you. They say that when a high brow meets a low brow, walking along Broadway. Soon the high brow, he has no brow. Ain't it a shame?
And you're to blame.
What's the use of prohibition? You produce the same condition. Crazy rhythm, I've gone crazy too.
Extrait du film Cotton Club de Francis Ford Coppola. C'est un film qui montre bien le climat et l'émulation musicale telle qu'elle pouvait se produire dans les années 30-31, justement à New York. Il est un autre film qui précise et décrit bien la situation. Alors, avec le Cotton Club, on est à New York, et là, nous allons nous retrouver à Kansas City. C'est le film de Robert Altman, qui s'appelle d'ailleurs Kansas City, qui raconte donc ce qui s'est passé en matière musicale dans cette ville, l'irruption de la nouvelle écriture swing. Et là, l'extrait que l'on va entendre se passe dans un club qui s'appelle Hey Hey Club, et c'est à l'affiche une bataille entre Lester Young et Coleman Hawkins, en réalité joué dans le film par Dewey Redman et James Carter.
Mm-hmm.
1934. That's when Kansas City defined the word swing. Jazz that was sophisticated, but with a rough and tumble spirit that Kansas City thrived on. Count Basie, Mary Lou Williams, Hot Lips Page, Ben Webster. Greats of jazz gravitated to Kansas City in the 30s when the scene was wide open and jazz was happening round the clock. Cats came to play and really outplay each other in legendary cutting contests. By the time Coleman Hawkins and Lester Young locked horns in the Battle of the Tenors. Robert Altman grew up in Kansas City and remembers the music of joints like the Hey Hey Club. He's recreated a classic jam session with some of the best musicians of today playing in the spirit and the pinstripe suits of the jazz legends of yesterday. And like those cats in the 1930s, these cats of today came to swing in Kansas City.
Extrait de Kansas City, le film de Robert Altman. On entendait notamment au piano la distinguée, la délicieuse pianiste Jerry Allen, qui est très présente. Alors à Kansas City, le jazz se développe sur la synthèse du blues et du boogie-woogie avec des thèmes simples mais efficaces, des phrases courtes, 2 à 3 mesures maximum, appelées riff, on pourrait dire rafale en français, qui répétées en contrepoint faisaient naître un swing extrêmement souple avec une très belle dynamique. Benny Moten, Andy Kirk, Jay McShane et surtout Count Basie en sont véritablement les plus grands représentants d'une musique qui s'est prolongée, un style qui s'est prolongé pratiquement jusqu'à nos jours avec un permanent renouvellement dans les grandes formations. Alors si la crise s'étend, elle arrive jusqu'en Europe évidemment. Et les Français accueillent cette crise boursière qui frappe les États-Unis avec une certaine distance. Ils pensent que les Américains sont coutumiers d'un certain aventurisme en matière monétaire et financière et probablement qu'ils ne réagissaient pas aussi rapidement qu'ils auraient dû le faire. À la fin de l'été 31, la crise anglo-saxonne paraît terminée et devoir suivre un scénario tel qu'il s'est produit en 21, une sorte de reprise qui n'est pas encore perceptible, mais partout, les indices d'une stabilisation s'affichent, les prix de détail ne baissent plus aux États-Unis et les cours des matières premières ont cessé leur chute libre. Mais après la nuit du 19 au 20 septembre 1931, la livre a décroché. Elle est décrochée de l'étalon or avec des conséquences terribles. Notamment, ces conséquences seront terribles en matière de confiance. Et donc, il va y avoir un effet de retrait de la part des investisseurs. Et il y aura une autre conséquence, c'est-à-dire que les dettes interalliées qui datent de la guerre de 14 et les frais de réparation que l'Allemagne doit aux Alliés, eh bien, on va tirer un trait là-dessus et donc tout cet argent ne sera pas récupéré. Alors le problème, c'est que le Royaume-Uni, à ce moment-là, est le pivot de toute l'économie mondiale. Londres est la place financière qui gouverne toute la finance mondiale et tout le commerce international qui est libellé en livres. On n'en est pas encore au dollar. À l'automne 1931, la production industrielle a baissé de 17%, les prix de gros de 28% et les prix de détail de 8,5%. La bourse, quant à elle, a baissé de 51%. En France, comme dans le monde, 1931 est vraiment l'année noire. Le chômage apparaît avec 190 000 demandeurs d'emploi. Le gouvernement du moment réagit par un plan de dépenses alimenté par des crédits spéciaux. La loi du 28 décembre 1931 prévoit 3 476 millions de dépenses nouvelles financées par la même somme en obligation du Trésor. La seule bonne nouvelle, c'est que le coût de la vie a baissé de 10% et que le niveau de vie n'est pas trop affecté. L'or rentre parce qu'il fuit Londres et donc il vient à Paris. La France reste en bonne position par rapport au reste du monde et fin 1931, la baisse de la production industrielle sur la moyenne de 1929 est de 42% en Allemagne, qui compte 25% de chômeurs. Elle est de 37% aux États-Unis, 33% en Belgique, 27% en Italie et 23% seulement, oserais-je dire, en France. En revanche, la dévaluation permet à l'Angleterre de repartir d'un très bon pied. La production industrielle est en hausse de 10% et le chômage baisse de 300 000 unités. La perspective des élections générales de 1932 congèle un peu la vie politique en France et le budget de 1932 est largement déficitaire, ce qui n'est pas très admissible pour l'opinion publique de l'époque. Le 6 février 1932, le gouvernement Laval tombe, premier acte d'une accélération de l'instabilité gouvernementale qui va se produire pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les élections envoient la chambre d'une majorité pour l'ancien cartel des gauches qui est plus forte que celle de 1924 et un nouveau gouvernement ne prend aucune mesure significative. Alors sans vouloir aller trop loin dans la projection sur des années qui ne nous concernent pas, puisqu'on en est aux années 30-31. L'activité se redressera en 1932 sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Il aura fallu un an pour digérer les conséquences de la dévaluation de la livre. Et en juin 1933, la production industrielle est à 91 contre 77 en juin 1932. La production d'acier est passée pendant la même période de 466 000 tonnes à 586 000 tonnes. En 1931, pour revenir aux années qui nous intéressent, le chômage explose en France, passant dans le secteur industriel de 2% à plus de 15%. Néanmoins, le taux de chômage reste moins élevé que dans les pays les plus touchés. Aux États-Unis, 36% de la population en 1932 est au chômage. En Allemagne, 44% de la population est au chômage. La crise se poursuit et la dépression se creuse jusqu'en 1936.
Thank you.
Nous sommes à Berlin, au Haus Vaterland. C'est un club qui reçoit pas mal de musiciens. Il est sur la Potsdamer Platz. Et c'est un orchestre qui est là à demeure. Il s'appelle le Sitkaze Fellows. Et donc, on s'aperçoit que le jazz a essaimé et que donc, même l'Allemagne des années 30, c'est en 1930, écoute du jazz avant que, évidemment, la montée du nazisme ne vienne l'interdire et ne vienne qualifier le jazz de musique dégénérée. Alors, la vague du jazz va au-delà encore de l'Allemagne puisqu'elle atteint l'Union soviétique et qu'un musicien de jazz d'origine juive, Andy Rosner, ne se fasse connaître avec un répertoire tout à fait dans le style de l'époque, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être déporté au goulag, parce que n'étant pas l'heure de plaire aux camarades Staline. Un cinéaste a réalisé dans des années récentes un film sur ce musicien, et je vous propose d'écouter un extrait d'un enregistrement qui date de 1938, d'une composition de George Gershwin, « When Buddha Smiles ». Andy Rosner, donc je sais pas pourquoi je le prononce à l'anglaise, Andy Rosner, donc musicien russe juif, quand Bouddha sourit, une composition de George Gershwin, donc enregistrée en 1938. Le film que lui a consacré Philippe Sarfati s'appelle Jazzman from the Gulag. Alors le jazz donc se propage à la planète entière, on pourrait presque dire. Et aux États-Unis, les nombreux orchestres qui se produisent, il en est un, parmi d'autres, mais un significativement, et qui assure des grandes salles de danse et fait danser toute l'Amérique. Ce sont les frères Dorsey.
Yes, indeed. Thank you.
making with jive, boy, you shout when it hits you. Yes, indeed. Yes, yes. Yes, you shout when it hits you.
Yes, indeed.
When the spirit moves you, you shout hallelujah.
I mean,
when it hits you, you holler.
Yes, indeed.
Yes. When the jive start jumping, you shout,
let me in there.
Well, all right then. When it hits you, you holler.
Yes, indeed.
Yes.
Yes Indeed, donc des frères Dorsey, respectivement clarinettiste et tromboniste. C'était Tommy Dorsey, l'arrangeur de ce morceau. Il faisait partie de tous ces grands orchestres, ces grandes formations qui préfigureront un autre grand orchestre qui est celui de Glenn Miller, qui lui aussi fera danser l'Amérique et l'Europe, puisque Glenn Miller disparaîtra dans un naufrage dans l'avion qui le ramène d'Europe vers les États-Unis après une tournée. Ces grands orchestres disparaîtront après la guerre pour céder la place à quelques formations comme celle un peu patrimoniale, comme celle de Duke Ellington ou de Count Basie, qui résisteront jusqu'à des périodes très récentes. Mais au-delà des années 30, ces grandes formations ne subsisteront pas. Voilà, demain nous aborderons un autre aspect de ces années 30-31, notamment l'exposition coloniale, un vrai scandale en France, et nous consacrerons plus de temps à Duke Ellington et à Count Basie. Mais ceci est bien évidemment une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il n'y aura pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Ware en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.